caillou dans la chaussure, bonjour. Au sommaire de cette émission, en dernière partie, nous évoquerons Hansel et Gretel à partir d'un CD en cours de fabrication de Catherine Vincent. Nous vous inviterons à rencontrer Christian Bruel à Fos-sur-Mer dans le cadre de la manifestation « Lire et grandir » destinée à la petite enfance. Au cœur de cette émission, nous retrouverons la rituelle rubrique du petit cinéma de Photokino pour aujourd'hui voyager jusqu'au Burkina Faso. Nathalie Guimard, bonjour.
Bonjour Marie-Dominique. Et oui, nous plongerons dans l'univers d'un vrai village d'Afrique de l'Ouest en compagnie de Rabi et de sa famille. Nous laisserons bercer par l'univers sonore de la brousse.
Et tout de suite, rencontre avec Delphine Perret, auteure illustratrice d'albums jeunesse. Delphine Perret, généreuse dans son propos, minimaliste et percutante dans le trait. Alors Delphine Perret, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous rencontrer dans cette émission et de faire connaissance avec votre travail, avec vos livres. Donc vous êtes auteure, illustratrice d'albums jeunesse. Alors vous avez suivi l'école des arts déco de Strasbourg et vous êtes sortie de l'école diplômée, donc un diplôme de graphiste en 2003. On dit de vous que c'est dans le cadre de vos études que vous avez découvert la narration, le plaisir de raconter des histoires. Est-ce que vous pouvez nous faire partager, est-ce qu'il y a eu un événement fondateur pour créer votre premier livre, et c'est lequel votre premier livre?
Alors mon premier livre c'est tout neuf, c'est un livre que j'ai fait quand j'étais étudiante en graphisme, j'ai fait plutôt pour me détendre, du coup c'était pas dans un but éditorial au départ. Et donc après il n'y a pas d'élément, non, pas d'élément particulièrement déclencheur. C'est juste l'envie, je pense, de s'amuser, de créer des petites choses un peu personnelles et à la fois à partager avec d'autres. Mmh. Voilà.
Donc tout neuf qui est paru aux éditions Atelier du Poisson Soluble.
Voilà.
Donc vous êtes restée fidèle à cet éditeur. En 2004, apparu un petit ouvrage singulier que j'adore. C'est comme ça que je vous ai connue d'ailleurs, Les jours bêtes. Alors le propos de ce livre, c'est sur le doute de soi, sur l'inconfort de la vie parfois. Et c'est un petit livre aposté.
Oui, alors c'est un petit livre que j'ai fait en étant encore étudiante aussi. Alors là, quand j'étais aux Arts Déco de Strasbourg. C'était parti simplement de la première image, qui est donc un chat dans un arbre, avec en face un texte qui dit qu'il y a des jours où on a envie de baisser les bras. Mmh. Et donc je me suis dit que ça pourrait être amusant d'en trouver d'autres comme ça. Je me suis fait une petite liste. Alors c'est pas du tout un livre qui est parti sur un état personnel où je me suis dit « oulala, ça va pas ». C'est plus un jeu en fait au départ. Et donc ensuite que j'ai partagé avec d'autres gens qui étaient autour de moi ce petit recueil de petites situations. Et puis je l'ai partagé aussi avec mon éditeur qui m'a proposé lui d'en faire un livre à poster en fait. C'est son idée. Et j'en suis ravie parce que du coup les gens l'envoient à d'autres gens qui n'ont pas trop la forme. Et c'est amusant parce que c'était pas du tout le but de départ, mais du coup je suis contente de jouer ce petit rôle
à travers ça. Oui, parce que du coup, c'est un livre, au bout du compte, rassurant.
Oui, c'est ce qu'on me dit.
Voilà. Et donc, du coup, la forme permet de se reposer sur un geste. Donc, on peut le poster et l'envoyer, et le partager et l'offrir à des amis. Ensuite, Le peuple des sardines, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Parce que c'est un livre très drôle, très inventif.
Alors là aussi, en fait, mes premiers livres, c'était des projets de diplôme, pour tout vous dire.
D'accord.
Donc, des projets sur lesquels j'ai eu le temps de traîner un peu, de revenir. Et donc, celui-là en particulier, c'était parti de l'idée toute simple que si les sardines avant poussaient sur des arbres. Et donc, à partir de cette idée, j'ai essayé de recréer toute une petite histoire. C'est souvent ce que je fais, en fait. J'ai une petite idée et puis, après, autour, j'essaie de construire une narration. Et donc là, c'était parti là-dessus. Alors, j'étais même partie pour en faire d'autres qui expliquaient pourquoi pourquoi les pingouins habitent au pôle Nord, ce genre de petites choses, quoi. Mm-hmm.
Donc, oui, voilà, des petites questions comme ça qu'on peut se poser, et vous tentez de trouver des réponses.
Oui, mais les moins scientifiques possibles.
Voilà. Alors ensuite, en 2005, on a vu tout tondu arriver. Alors là, vous avez changé d'éditeur, c'est chez Thierry Magnier.
Alors celui-là, il est encore chez l'atelier du
Poisson. Ah oui, pardon, excusez-moi, oui.
c'est le loup qui est chez Thierry Magnier.
Oui. Oui, donc moi, le loup et les chocos, alors là, moi je le trouve très très chouette ce livre-là, c'est parce que là vous prenez à rebrousse-poil l'image du loup, l'image traditionnelle du loup qu'on a à travers toute la littérature jeunesse et les grands classiques. Et là, ce loup-là, il est vraiment dépourvu de tous les attributs classiques, traditionnels, toute son éducation est à refaire. Et c'est un enfant qui va donc le recueillir, ce loup un peu paumé, et cet enfant qui va se charger peut-être de le faire revenir dans le droit chemin, c'est-à-dire que sa mission principale, c'est de faire peur. Mais alors, vous n'avez pas peur du loup, on dirait.
Alors ça, je me souviens plus, c'est quand j'étais petite, j'avais peur du loup. Par contre, j'aime bien prendre des archétypes un peu, alors souvent à travers des animaux, parce que comme j'explique souvent aux enfants qui me demandent pourquoi je fais des animaux dans mes livres, on associe souvent un caractère avec un animal très 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 immédiatement. Et donc là, le loup m'intéressait justement pour ce côté effrayant. Et je me disais, tiens, prenons-le à contre-pied, amusons-nous un petit peu avec ça. En fait, moi, bon, mes livres, en général, je les fais pour m'amuser au départ. Donc, donc voilà, c'est parti de là. Et puis, c'est vrai que je savais pas la forme qu'allait prendre cette histoire. Et puis finalement, les personnages finalement ont eu besoin beaucoup de se parler. Donc ça a pris une forme très dialoguée, en fait. Et c'est amusant parce qu'ils ont eu un peu leur autonomie, quoi, dans cette histoire, au final.
Et en fait, vous variez aussi les formes, parce que, par exemple, en 2006, on a vu paraître Oncle Hector. Alors là, on se rapproche d'une drôle de tante qui croit en la réincarnation et qui suppose que son mari défunt s'est réincarné donc en un poisson rouge. Et donc la protagoniste, la petite fille qui vient passer des vacances chez sa tante, passe des vacances très drôles et insolites.
Oui, alors des vacances particulières. Je tiens à préciser que ce n'est pas du tout une façon de me moquer de la réincarnation.
Hein. Non, bien sûr que non.
C'était plus un prétexte pour voir un peu, comment la petite fille rentre dans les croyances de la grand-tante. On ne sait pas trop si elle se prend au jeu ou pas. On ne sait pas trop, en fait. Je ne réponds pas tellement à cette question, mais j'avais envie de voir leur complicité, en fait, s'établir autour de ça. Aussi bien, elle aurait pu la prendre pour une folle ou croire complètement aussi à la réincarnation. Et là, je pense que je la laisse un peu entre les deux pour toute cette complicité-là que ça peut créer, quoi.
Alors, j'ai l'impression quand même au fil de vos livres que vous affectionnez les expériences partagées. Donc, notamment là, par exemple, avec cette petite fille et cette tante, vous dites, est-ce qu'elle se prend réellement au jeu ou pas ? Effectivement, le doute persiste. Et pour glisser sur le livre suivant que je voulais évoquer, c'est Signe d'école. Alors là aussi, c'est une histoire d'expérience partagée puisque c'est un livre collectif. Vous avez rencontré donc Bénédicte Gourdon et Roger Rodriguez qui tous deux ont un lien très fort parce que ce sont des professionnels qui travaillent avec des sourds et des malentendants. Et vous avez illustré ce livre donc qui se déroule dans un univers familier, c'est-à-dire l'école, et qui invite à partager un langage bien particulier, le langage des signes.
Oui, alors ça c'est une famille qui fait partie d'une collection qui existait déjà, donc qui est la collection Signes de chez Thierry Magnier, et qui est donc à chaque fois, le principe c'est de demander à un illustrateur d'illustrer un univers, à savoir il y a eu signes de vacances, signes de voyage, signes d'école, enfin il y en a eu tout un tas que je ne connais pas forcément, signes de Noël par exemple. Et donc, quand Emmanuel m'a proposé d'illustrer ça, moi j'étais ravie parce que c'est quand même une langue qui m'a toujours attirée, la langue des signes. Et sans, j'aurais été incapable de faire ça toute seule. Donc j'étais ravie qu'on me le propose et qu'il y ait déjà un principe installé. Et donc l'idée, c'est qu'il y a le mot écrit, le mot signé, donc avec des personnages qui font les gestes, et puis l'illustration. Donc là, à la fois, il y avait un petit fil à créer en travers les différentes illustrations. Donc là, c'est une petite fille qui amène son hamster à l'école, donc il y a tout un tas de petits moments un peu décalés. Et d'un autre côté, il y avait donc tous ces signes. Et alors vraiment, j'ai préféré faire les signes pour tous les deux.
Oui.
Ça demande une précision assez, assez particulière. Les mimiques du visage sont importantes aussi, donc c'était...
Oui.
Une découverte en fait, et ça m'a beaucoup plu. J'aimerais bien réfléchir à essayer de faire autre chose un petit peu plus poussé dans cet univers là.
Mmh. Oui, les expressions et les mouvements des mains, c'est la gestuelle.
Oui, la gestuelle est très précise en fait. Hein.
Oui.
C'est ce qui m'a demandé aussi plus de temps. Hein. J'avais quand même une référence photographique, mais les croquis d'après photo m'ont demandé vraiment du temps. Pour être précis, quoi.
Donc ensuite, on retrouve un petit livre du même format que Les Jours Bêtes aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble. Moi, mon truc. Donc il y a une familiarité avec Les Jours Bêtes. Bon, le format, certes. Mais aussi, voilà, ça part de l'idée quand on est un petit peu chiffonné.
Là, c'était un livre, c'était une commande. Hein, parce qu'en fait, le Musée du Louvre... propose à des éditeurs jeunesse de travailler en collaboration avec eux. L'Atelier du Poisson Soluble a été contacté et a proposé, lui, à ses auteurs, donc moi et puis d'autres, de proposer des histoires qui aient un petit peu de Louvre dedans. C'était ça qu'on m'avait dit, hein, comme commande de départ. Mm-hmm. Donc, moi, alors, je...
Vous avez choisi un tableau ?
Voilà, j'ai choisi la Joconde. Et j'ai commencé à imaginer un projet avec. Et les gens du Musée du Louvre étaient intéressés par l'idée du livre à poster qu'ils avaient vu donc, avec les Jours Bêtes. Donc j'ai dû développer deux projets, en fait. Un à poster, et puis un classique, on va dire, qui est devenu Mademoiselle Lisa, qui est l'histoire, la véritable histoire de la Joconde. Et puis le petit livre à poster, moi, mon truc, donc, qui devait être plus... qui devait avoir un petit côté un peu universel, pour être envoyable, quoi, parce que il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui fait qu'on l'envoie. C'est pas juste une histoire, il faut que ça s'adresse aussi aux gens, donc
oui.
Qui peut aussi tout le challenge de celui-là.
Oui, donc on retrouve une diversité de portraits.
Oui, dans celui-là, oui. C'est un peu tout ce qu'on peut être, comment on peut se prouver.
À tous les âges.
Oui, je pense à tous les âges en plus. Donc,
Bien. Et donc les derniers livres nés en 2008, donc il y a Imagier Ronron, un livre cartonné pour compter en rythme, en rime, en jouant. Alors là, il y a aussi des personnages, donc ce sont donc un bestiaire, mais voilà, il y a toujours la petite touche, un peu drôle. Donc là, il y a un moucheron, c'est pas habituel.
Oui, alors cette imagerie, il a fait beaucoup de chemin parce que c'était au départ une idée que j'avais eue comme ça de faire un imagier en rime. Et puis, quand je l'ai présenté à la directrice artistique de chez Thierry Manier, elle m'a dit « Ah, il me faudrait vraiment que tu le pousses un tout petit peu plus. » C'était un projet que j'avais un peu laissé dans un tiroir. Et elle voulait retrouver justement cette petite touche d'humour, quelque chose que j'affectionne habituellement. Donc je l'ai remanié et puis je me suis dit qu'il allait avoir cette espèce de petit moucheron qui s'incrustait dans les pages et disait... faisait la rime, quoi, tout bêtement. Donc voilà, c'est un peu un projet qui a rebougé. Et puis j'espérais aussi qu'avec ce petit moucheron, les enfants s'amuseraient à répéter la fin des mots. C'est ce qu'ils font quand même sans qu'on leur demande habituellement. Donc voilà.
Donc c'est un livre pour les enfants à partir de 18 mois. Alors pour rester encore sur l'illustration, sur les caractéristiques de votre travail, pour évoquer les éléments visuels, on peut dire quand même d'une manière générale, c'est un dessin minimaliste, un trait juste, un trait qui cerne les gestes, les expressions des personnages. Et c'est un parti pris, c'est un choix esthétique. Ou est-ce que c'est parce que cela vous correspond vraiment ?
En fait, je me rends compte quand je dois faire ou quand j'essaie de faire des images un petit peu plus denses, que j'en reviens vraiment toujours à enlever des choses parce que je veux qu'on perçoive tout de suite l'idée. En fait, je veux être efficace dans mon dessin.
Oui, une force évocative forte, en fait. Oui, une grande force évocative.
Voilà, je fais attention aux expressions des personnages, autant que faire se peut. Hein.
Bien sûr.
Encore du chemin à faire, mais je veux dire, l'idée, c'est quand même d'être... qu'on comprenne tout de suite l'humeur du personnage. Enfin, dans Le Loup et les Chocos, par exemple, j'ai vraiment... c'est vraiment sur les expressions d'enfants que j'ai travaillé. Et puis, en règle générale, oui, j'aime aller à l'essentiel, qu'on comprenne l'idée. Je crois que moi, j'aime avoir des idées. Après, il faut les développer, en faire une narration, l'illustrer. Mais comme le point de départ, c'est quand même une idée, j'aime autant qu'on la comprenne tout de suite, de façon très directe et efficace, c'est vrai.
Et puis là, ben, on bascule avec Le Moustachu. Il n'y a pas d'illustration du tout. Donc là, c'est un petit roman aux éditions Thierry Magnier aussi. Et donc là, vous avez lâché votre crayon ?
Oui, en fait, j'avais envie d'écrire un texte un peu plus long que ceux de mes albums. Mais je me sentais pas de m'attaquer à quelque chose non plus de très très long, à un roman. Voilà, il n'y avait pas encore, j'en étais pas encore là. Mais donc cette petite collection de chez Thierry Magnier, qui est une collection pour les jeunes lecteurs, en fait, qui veulent un peu avoir des romans comme les grands, mais qui sont beaucoup plus courts. Cette collection-là m'intéressait dans son format, dans la longueur du récit. Donc je me suis attaquée à ça en pensant à cette collection dès le départ, en fait. Et oui, je pense que j'ai renouvelé l'expérience. Ça m'a plu de trouver un autre moyen aussi de raconter, en fait.
Alors, pour nos auditeurs, je lis la quatrième de couverture. Mercredi, c'est le jour des frites. Jules va souvent au fast-food avec sa mère. L'un des serveurs a une bonne moustache noire et dans cet univers, il détonne. Jules en est certain. Le moustachu cache un mystère. Est-il espion ? Joueur de cartes professionnel, gangster en fuite, Jules va en avoir le cœur net. Donc là, on a affaire à un personnage qui a une imagination débordante et un sens de l'observation très aigu. Bien, Delphine Perret, je n'ai pas évoqué tous vos livres. On peut aussi citer Au seuil, question de philo entre ados, qui s'adresse donc à des plus grands. Je voulais savoir si vous aviez des livres à apparaître en tant qu'illustratrice ou bien voilà sur des projets collectifs ou dites-nous.
En ce moment, je travaille sur un livre qui devrait paraître en juin, avec des textes de Claudine Aubrin, j'adore ces textes, vraiment ça me plaît beaucoup, et ça devrait s'appeler L'insupportable Monsieur Stan. Donc c'est l'histoire d'un chien qui est absolument insupportable, en fait, comme le titre l'indique. Au grand désespoir d'Antoine, donc son petit propriétaire, et voilà, c'est un petit recueil de 9 nouvelles. Qui mêle le texte et puis des pages de BD. Et voilà, je me retrouve beaucoup dans son humour. Et donc voilà, c'est ce que je fais en ce moment.
Bien. Et sinon, peut-être qu'on peut vous rencontrer, Delphine Perret. Je crois que vous allez venir dans la région les 15 et 16 mai au Salon du Livre de Saint-Martin-de-Crau, je me trompe ?
Oui, non, voilà, c'est ça, je serai là.
Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que nos auditeurs feront le déplacement et suite à cet entretien, ils viendront vous rencontrer. Delphine Perret, donc vous rayonnez avec la diversité de vos propos, de vos points de vue, vous déroulez des histoires courtes, percutantes, généreuses, je l'ai déjà dit et j'insiste. Et voilà, je vous invite tous à venir rencontrer Delphine Perret. Je vous remercie beaucoup et au plaisir. Je pense que je ferai le détour par Saint-Martin-de-Crau. Au revoir.
Merci, au revoir.
Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. Je me suis réveillé ce matin de bonne humeur. Comme ça pour rien, j'étais content. Surpris de n'avoir aucune idée noire. Je me suis habillé d'une grosse chemise à fleurs. Comme ça pour rien, j'étais content. sans savoir pourquoi, sans savoir comment. J'étais enfin guéri, sans savoir de quelle maladie. Bien sûr, on a plus 20 ans, on a des cheveux blancs et l'angoisse de l'avouer. Mais de l'amour pour son facteur, comme ça pour rien. Je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié. Je me suis réveillé ce matin dans tes bras, comme ça pour rien. J'étais content, j'avais enfin un bon karma. Je me suis baladé sur le manche de ma guitare, comme ça pour rien. J'étais content, surpris d'avoir autant d'espoir. J'en ai soupé, et vous aussi. Bien sûr, on a plus 20 ans, on a des cheveux blancs et l'angoisse de la bouée. Mais de l'amour pour son facteur, je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié. J'ai changé tout d'un coup.
C'était Thomas Dutronc, extrait de l'album Comme un manouche sans guitare. Tout de suite, on retrouve la séquence du petit cinéma, donc un avant-goût de la séance du 1er avril au cinéma Les Variétés. Nathalie Guimard.
Oui, et pour le 1er avril, nous n'aurons pas un poisson, mais non, mais plutôt une tortue, une des habitantes de ce village que l'on va suivre le long de ce film Rabbi. Mercredi 1er avril, le petit cinéma vous embarquera au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, dans un village au cœur de la brousse. Rabbi, c'est le titre de ce film, et c'est aussi le prénom d'un enfant qui vit dans ce village avec son père, forgeron, sa mère, potière, et sa sœur aînée.
Thank you. Dans cet extrait, nous avons pu entendre Quilga, le père de Rabi, proposer à Puksa, un vieux du village qui était très ami avec son père, de venir habiter chez lui, avec sa famille. Mais Puksa refuse. Il préfère continuer à vivre seul et à se débrouiller. Il accepte cependant que Rabi s'occupe un peu de lui. Puksa reste la plupart de la journée assis, immobile, muet. Il regarde sans cesse la grande colline. Rabi parle peu aussi. Il n'est pas très joueur non plus. Il apprend le métier de forgeron sans trop d'entrain. Le vieillard et l'enfant restent donc longtemps côte à côte, en échangeant quelques paroles. Et le film nous compte, car pour Gaston Caboret, le réalisateur griot, le cinéma, c'est un art du conte. Le film nous parle de l'apprentissage de la nature, de l'humain, et aussi de l'invisible.
Yes, Karabi, now you know what's on sale there.
Plongé au cœur de la vie quotidienne de ce village, au rythme du soufflet du forgeron et des chants des coqs, les artisans évoquent le déboisement de la brousse, tandis qu'un vieux poste de radio tombe en panne. Puksa chique son tabac. Kutpoko, la mère de Rabi, trie les pots ébréchés après la cuisson. Le vélo de Quilga couigne un peu lorsqu'il transporte les précieux pots au marché du village.
Waka. Pona ke bang to sa kutoko.
Sur la route de terre et d'herbes folles, le vélo de Quilga a buté contre la carapace d'une tortue. Et crac, les pots sont tous cassés. Alors pour prouver à sa femme que c'est bien une tortue qui est la cause de sa chute, il la rapporte au village. Et là, c'est une rencontre pour Rabi. Il se passionne pour l'animal, un peu trop au goût de ses parents.
Allons, on va y en prendre.
Pour Rabi, avoir une tortue, c'est l'occasion d'exercer son pouvoir sur un être plus faible. Le nourrir, l'éduquer, l'enfermer, le maltraiter. C'est grâce à cette tortue que Rabi va commencer son apprentissage et ses réflexions sur la sagesse et le respect de la nature, avec l'aide de Pouxa, bien sûr, qui, toujours avec peu de mots, transmet un peu de son expérience au jeune garçon. Jeune garçon qui, du haut de ses 8-9 ans, saura lui aussi apprendre à y voir plus clair à Pouxa. C'est le cycle de la vie, le cycle de la nature. Les figurants du film sont réellement les habitants de ce village. Et l'histoire est née d'un souvenir d'enfance de Kaboré. Il a écrit le scénario de Rabi pour un concours d'aide à la création cinématographique qui portait pour thème l'environnement, concours qu'il a gagné et qui lui a permis de réaliser son projet. Rabi, c'est presque du cinéma documentaire. On y apprend beaucoup sur la vie et l'artisanat d'un village africain, comme dans de nombreux films africains d'ailleurs. Mais c'est aussi l'histoire d'amour endormi de Pouxa et Tousma, la vendeuse de tabac. C'est aussi l'histoire d'une adolescente qui devient femme. L'histoire d'un village qui sent la modernité poindre. L'histoire d'une tortue qui parle.
Mamiasa, Nukuli.
Manam Yafa.
Mikusol Ram to Gom Namewe.
Aria Pipi ran Mamsungum Ninin Sala.
Enough, Dama.
Of Tarabu, Layane Fola Mampura Pella. Dalia Mamming la Fum Watankasanga Zugoe.
Njewa la kapak la masa.
Ya bui man la fu yikna wa le bus mam wu yo.
Mam gidrat fo mira. Lam det fo ma. La kale no mam wu so.
Ti fo kien kien kanga fama minga.
Fo pa ba menga. La kompo mam yure.
Fo ne si la la yilim yingla. O yilinga yon ya gwama. Fo mi vuntro de.
O tinge se.
Ya guam kateka, silala toro da solusro. Omi kibe, temes kibe, kwilse, kose, weto, tamse, morre kibe, lumus kibe, sagan kibe, la zaman fin kibe. Noor usro, ob toros da ton kuya taviela. Kwini subsumbe moronwa, bam ya berberbera, nye tonno, la masanwa. Bam me vi ma liberatou. Ya ni salba ne bgen touma. Bam balan kourba. Wakat ninga, ya bwak se nyingbala.
Bama ya ni wese.
Ya ne wala kane ba man toum kira.
Les cinémas des pays d'Afrique noire sont nés au moment où ces pays ont conquis leur indépendance, dans les années 60. La plupart des premières images tournées en Afrique furent pendant longtemps des images filmées par les Européens, colonisateurs. Et c'est dès 1969 que la situation au cinéma, du cinéma au Burkina Faso, est citée en exemple par les cinéastes africains des autres pays. Et c'est d'ailleurs au Burkina Faso que va naître cette même année, 69, le premier grand festival de Ouagadougou, le FESPACO, Festival panafricain de cinéma. Et depuis, il a lieu tous les deux ans, les années impaires, au mois de février. Pour ceux qui seraient passionnés. Et Kabore a d'abord commencé à faire, comme beaucoup d'autres réalisateurs africains, des films d'éducation sanitaire, de vulgarisation technique et scientifique, avant de créer des projets d'auteur plus personnels. Et je pense que Rabhi, d'ailleurs, est un de ses premiers films, de ses, peut-être son deuxième long métrage. Peut-être juste aussi rajouter que pour le cinéma africain, sa diffusion en dehors des pays d'Afrique est essentielle pour sa survie. Et donc, c'est nécessaire de trouver des distributeurs, des festivals qui diffusent ses films. Et on peut citer un festival important en France, le Festival des Trois Continents à Nantes, qui fait ce travail depuis de nombreuses années.
Un caillou dans la chaussure. Le petit cinéma.
Nous avons déjà montré d'autres films d'animation et films de prise de vue réelle africain, au petit cinéma même. L'an dernier, on avait appelé une séance la calebasse, le griot et le baobab. Je ne sais plus, j'avais peut-être inversé les titres, les noms dans le titre. Et on avait déjà pu voir d'autres films, dont La voix du balafon, qui là aussi nous plongeait dans un village africain et où on apprenait à fabriquer l'instrument, le balafon, en compagnie d'un enfant qui lui-même était en apprentissage. Et puis à cette occasion d'ailleurs on avait fait un atelier, je me souviens, j'en avais parlé avec l'Omnibus qui est une association qui a voyagé en Afrique, qui a rapporté des photographies d'Afrique et qui a monté un spectacle avec un conteur du Congo, hein, tu m'en as déjà parlé,
oui,
un peu
tout à fait.
Et avec l'Omnibus on avait imaginé et fait un atelier de création musicale sur des dessins fabriqués par les enfants qui représentaient un peu leur imaginaire d'un village d'Afrique. et les enfants ensuite avec Samuel Keller de l'Omnibus essayaient, découvraient les instruments africains et du coup créaient une ambiance sonore sur ces images animées image par image. Donc là encore autour du film Rabbi, on imaginera un atelier avant la séance qui permettra à une dizaine de participants de rentrer dans l'univers du film et de rentrer un peu dans ses coulisses et d'essayer aussi de faire du cinéma ou de toucher du doigt la création. Voilà. Et pour ceux qui s'intéressent au cinéma africain, les jeunes ou ceux qui aimeraient transmettre à des plus jeunes, je voulais conseiller un DVD du CEREN, édité par le CRDP et le CEREN, sur le cinéma africain, où on peut retrouver Rabbi, mais d'autres courts-métrages aussi, comme La Petite Vendeuse de Soleil, qui est un film assez connu aussi. Et puis, certainement, d'une bibliographie, des références qui peuvent un petit peu permettre d'aller plus loin dans cette découverte. Rendez-vous prochain petit cinéma, le 6 mai, avec Le Géant de Fer.
Children, children.
Alors dans cette dernière partie d'émission, on ouvre encore d'une manière plus large sur d'autres pratiques artistiques, la musique, les contes, les rencontres avec les auteurs. Et on voulait attirer votre attention sur un CD en cours de fabrication de Catherine Vincent, un duo de chanteurs que nous avons déjà reçu dans cette émission il y a un an déjà. Et Catherine Vincent sont en train de fabriquer un CD à partir du conte Hansel et Gretel et on va vous en passer un petit extrait qui va vous donner un petit peu une idée de l'ambiance. Donc c'est Catherine Vincent aidée de leurs enfants, c'est aussi un projet, une petite aventure familiale. On vous en dira un tout petit peu plus juste après.
Les voilà partis tous en chemin pour la forêt.
Le ventre vide et les poches pleines, pleines de petits cailloux blancs, petits trésors, petits diamants que je sème tout doucement. Je vais sur le chemin, je marche dans la forêt. Je ne sais plus très bien de quoi demain, de quoi demain sera fait. En moi, enfoui. Tic, toc, tic, toc. On va sur le chemin, on marche dans la forêt. On ne sait plus très bien de quoi demain, de quoi demain sera fait.
Ventre vide et le cœur lourd, lourd d'être lâche, lourd d'être faible, lourd de pensées qui me tourmentent, pesant remords qui me hante. Tic, toc, tic, toc. On va sur le chemin, on marche dans la forêt. On ne sait plus très bien de quoi demain, de quoi demain sera fait.
Le ventre vide et le pied léger, léger de train, fin débarrassé de ces vilains,
vilains, vilains, vilains.
Petits enfants,
vilains, vilains, vilains.
Qui mangent tout, qui mangent tant. Je vais sur le chemin, je marche dans la forêt, je me frotte les mains, car dès demain, je mangerai à ma faim.
Alors, je crois que au début, c'est né dans une classe, un petit peu comme leur précédent album, enfin qui s'adressait aussi aux enfants, qui racontait Le vilain petit canard, version Catherine Vincent. Et je crois qu'ils nous avaient raconté que c'était né dans une école de Damas.
C'est ça.
Quand ils étaient en Syrie, mm-hmm. puisqu'ils ont longtemps vécu là-bas, mm-hmm. Catherine et Vincent. Et là, je crois que c'est donc, plus près de nous, l'atelier oui. En école.
Tout à fait. Donc en fait, c'est né d'un atelier d'écriture à Manosque, dans une classe de l'école des Plantiers, une classe de CE1. Et c'est Vincent qui, depuis 2 ans, en collaboration avec l'association Éclat de Lire et la MJC de Manosque, anime des ateliers d'écriture avec les enfants à partir d'un conte. Donc là, le conte choisi Hansel et Gretel, connu et reconnu, donc qui fait partie du patrimoine de la littérature jeunesse. Et donc, le but de la démarche, c'est de travailler à partir de ce conte, de créer des textes et surtout des chansons pour aboutir à un conte musical. Et dans un second temps, Vincent, aidé donc de Catherine dans la rédaction la création des chansons suite à l'atelier d'écriture, ont décidé d'étoffer la démarche et d'en faire quelque chose d'encore plus riche et de le rendre visible aussi, et notamment donc en enregistrant ce CD qui est en cours d'impression. Voilà, et puis ils se sont fait aider de oui. leurs propres enfants, on vient d'entendre leur voix. Finalement, troisième étape, parce que finalement, pour rendre les choses encore plus visibles, mais ça fait partie de leur travail habituel, c'est-à-dire qu'ils ont produit un spectacle, et un spectacle donc que vous pourrez voir à la Baleine qui divague samedi 28 mars à 16h, pour une présentation donc de ce disque à paraître et du spectacle, donc un spectacle que Catherine Vincent propose aux médiathèques et aux bibliothèques.
Voilà pour les curieux, donc La Baleine qui divague, c'est le théâtre du Comte de Marseille, au 59 du cours Julien, dans le 6e. Et oui, Catherine Vincent, juste te rappeler qu'à côté de leur création plus familiale, enfin pour le jeune public, sont compositeurs, créateurs de chansons en différentes langues, italien, anglais, arabe et français, il ne faut pas oublier. Et voilà, sous le nom du duo Catherine Vincent, je pense qu'on peut même, en cherchant juste après Catherine Vincent sur Internet, ou écouter Radio Grenouille, puisque un de leurs morceaux passe souvent sur les ondes de la grenouille.
فتحت الشبك ومكان في حب سرور وفرح وسعادة مكان في شمس بنايات شوب سيارات جبل وزفت قلبي عم بيبكي مو أنا بيحكي لحاله مو أنا حرب وجحيم مرض وخوف هذا سؤال سؤال سكرت عيوني وجوافي ذكرى سعيدة لما كان في شو في ما في شي بكرة بتبلش قصة جديدة امبارح ماتت بالمدينة مين ما بعرف مين بشارة سمعت حدا الغني يلمط الخوف ولو صحة زينة شو في ما في شي شارح سمعت حدا الغني يلمط الخوف ولو صحة زينة شو في ما في شي شو في ما في شي شو في ما في شي
C'était Elle Wadé de Catherine Vincent.
Donc Catherine Vincent, donc des histoires à suivre, des chansons à suivre. Et juste à titre indicatif, Vincent Comaret, donc qui anime les ateliers d'écriture, va cette année retravailler à Manosque à partir du conte La Belle et la Bête. Voilà.
C'est d'ailleurs des projets qui sont soutenus par l'inspection académique.
Oui.
Je crois que c'est essentiel. On est encore ce soutien-là pour la
création. Mais c'est surtout, je l'ai dit tout à l'heure, l'association Éclat de Lire et la MJC de Manosque qui financent ces projets.
Oui.
Projets initiés par une institutrice très volontaire et très dynamique, m'a confié Vincent, Madame Fabre. Voilà.
Essentiel.
Tout à fait. Comme quoi, tout repose sur des personnes. Alors, on comptait terminer cette émission en vous invitant, en vous proposant de bouger, de sortir, de vous déplacer, notamment sur une manifestation qui s'appelle Lire et Grandir et qui va se dérouler du 24 au 28 mars à Fosses-sur-Mer. Et en ce qui me concerne, je voulais attirer votre attention sur la présence de Christian Bruel, auteur, éditeur, formateur, une personne incontournable dans le monde de la littérature jeunesse. On en a parlé dans cette émission. Nous l'avons accueilli dans cette émission l'année dernière. Et ça se passe le vendredi 27 mars à 18h30, donc à Fosses-sur-Mer, une rencontre tout public pour ceux qui ont envie de réfléchir, pour ceux qui ont envie de s'attarder sur la littérature jeunesse, sur ce qu'elle nous dit du monde, sur ce qu'elle nous dit sur nous et ce qu'elle transmet aux enfants. Cette manifestation est plus particulièrement destinée à la petite enfance. Hein, les objectifs, donc, c'est porté par l'association Ville Lecture Ouest Provence et l'objectif est de continuer, comme toutes les manifestations d'une manière générale, à encourager l'éducation artistique, l'invitation à développer son imaginaire avec la présence des livres dans l'univers familier dès la petite enfance. Voilà, mais cette manifestation ne se limite pas à cette rencontre avec Christian Bruel, mais ce sont aussi Nathalie.
Oui, bah, d'autres auteurs aussi, oui. Qui sont invités à exposer. Un des auteurs a d'ailleurs créé l'affiche de l'événement. On pourra retrouver Corinne Dreyfus, hein, qui elle-même a son atelier à Marseille, pas loin de nous. Edmé Canard, jeune auteur illustratrice qui sort de Strasbourg des Arts Déco. Stéphanie Bleck, Serge Bloch, Aurélia Grandin et quelques autres personnes. Lire et grandir, c'est aussi des occasions de voir des spectacles en famille, des spectacles aussi pour les plus jeunes, comme le spectacle du 28 mars qui aura lieu deux fois, qui s'appelle 1-2 Cha-Cha-Cha, avec Abel au chant, à la batterie, aux percussions, et puis un guitariste. Et puis, un petit peu plus tôt, le 25 mars, avec Abel, un atelier d'éveil musical, un duo pour parents et enfants. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, je pense que le matin à 10h et l'après-midi à 15h, vous pouvez ensemble expérimenter la musique. Voilà, mais tout ça, il faut réserver en général les ateliers, donc peut-être on va vous donner un numéro de téléphone, 04 42 11 01 99, parce que les ateliers, les places sont limitées. Et puis, eh bien oui, pour les plus grands, il y a les rencontres du 9e art, les rencontres de la bande dessinée à Aix-en-Provence, des rencontres aussi, des dédicaces avec des auteurs. Et ça, c'est du 24 mars au 25 avril. Donc on préfère vous en parler dès maintenant, parce que ça va durer, et les rencontres ont lieu les 3, 4 et 5 avril à la Cité du Livre, à la Méjane, donc. On vous souhaite de belles rencontres.
Merci Nathalie. Un caillou dans la chaussure touche à sa fin. Prochaine émission le mercredi 22 avril. Le sommaire restera top secret jusque-là. Merci à tous ceux qui m'entourent. Nathalie Guimard, Sébastien Gély, à la technique, les voix de Jules.
Les voix de Jasmin, de Nour, d'Alberta et d'Odile. Les enfants de Catherine et Vincent et de mon petit Andrea.
La sélection musicale d'aujourd'hui de Thomas Dutronc était de Léa. Merci à tous et à très bientôt sur Radio Grenouille.
À bientôt.